Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Le monde s'achemine-t-il vers une nouvelle course aux armements? La question se pose alors que selon certains pays producteurs d'armements, la tendance baissière s'est inversée. Là où pour d'autres, les ventes d'armes n'ont jamais cessé d'augmenter ces dernières années. À cette tendance s'ajoute beaucoup d'incertitudes. L'ère Trump aux États-Unis, si nul ne voit remise en cause l'axe fondamental de la défense américaine, à savoir le lien transatlantique, il risque de devenir un objet de transaction. Les dépenses militaires des pays de l'OTAN ont crû pour la première fois de 3% en 2016. Et à propos de l'OTAN, le président américain a dit durant sa campagne qu'il pourrait lâcher les alliés de l'Alliance Atlantique qui ne dépenseraient pas assez pour leur défense. Donald Trump a également parlé de renforcer l'armée américaine, ce qui, selon plusieurs estimations, exigerait un budget supplémentaire de 100 milliards de dollars par an. Au-delà, l'illusion d'un monde pacifié est en train de faire long feu et la réalité s'impose d'un monde qui se révèle de plus en plus compliqué. Un état de fait qui pose une autre question, celle de l'arme nucléaire, alors que l'ONU ouvre la porte à un traité d'interdiction. Nos invités, l'amiral Alain Coldefy, directeur de la revue Défense Nationale, bonjour.
Bonjour.
Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associées à Sciences Po, auteur de La dernière bataille de la France aux éditions Gallimard, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, vice-président d'Initiative pour le désarmement nucléaire. Bonjour.
Bonjour.
Le contexte international a changé depuis la guerre froide et il continue d'évoluer. On voit la Russie renforcer son arsenal nucléaire, l'Allemagne augmenter les effectifs de son armée après un quart de siècle de décrue et Angela Merkel promettre le quasi-doublement du budget de la défense. La Chine tendre les muscles en mer de Chine, Donald Trump vouloir renforcer l'armée américaine et la France confirmer le doublement du budget de la dissuasion nucléaire française à l'horizon 2030. Une modernisation qui coûtera près de 7 milliards d'euros annuels durant une décennie à partir de 2023. À quoi assiste-t-on? Quel regard portez-vous sur les crises en cours, les enjeux stratégiques aujourd'hui et quelles leçons en tirez-vous, général Desportes?
Vous dites, on assiste à un réarmement ou assiste-t-on? Il est clair qu'il y a aujourd'hui des tendances très lourdes vers le réarmement. Et donc, d'une part, on doit en prendre acte. C'est comme ça, on ne peut pas le nier. Et donc, ne pas chercher à se défendre soi-même. Et d'autre part, on doit chercher à le maîtriser. Les deux réflexes sont absolument nécessaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on doit prendre honnêtement part à une démarche visant à une inflexion dans cette démarche de réarmement. Mais en même temps, il est clair qu'un gouvernement à la mission très forte d'assurer la défense de ses concitoyens. Donc la vérité, elle se trouve dans cet équilibre à trouver entre la nécessité de la puissance dans un monde où seule la puissance compte et la nécessité de diminuer cette course aux armements qui est effectivement un risque pour tout le monde.
Amiral Coldefy.
Oui, vous avez évoqué la chute du mur et la fin du monde bipolaire, c'est-à-dire qu'en fait le vernis a éclaté, on se retrouve avec des pays qui retrouvent leurs frontières du passé, des empires, des ethnies qui se regroupent, et un monde qui n'est plus régulé par les deux grandes puissances, puis après la chute du mur par la puissance américaine. Le réarmement, il est réel, je pense que vous avez parlé d'illusions tout à l'heure, en fait ces illusions étaient, j'allais dire, communiqué par des illusionnistes. Quand on parlait de dividendes de la paix, Laurent Fabius, quelle imbécilité. Faut quand même avoir le sens des choses et de la réalité. La Chine, en 4 ans, a construit autant de tonnage de bateaux que la marine nationale, qui est la première en Europe et une des premières du monde. Donc, pour prendre cet exemple, puisque je suis amiral, mais je trouve qu'on est un monde où la réalité a crevé le plafond de verre, et donc il faut l'adapter, on y reviendra peut-être plus tard, en examinant les différents acteurs, à commencer par les États-Unis.
Jean-Marie Collin.
Alors, oui, je crois qu'on partage tous effectivement le constat que tous les États à travers le monde, toutes les grandes puissances, ou celles qui se revendiquent en tout cas comme telles, ou puissances à devenir, sont dans une course au réarmement ou au surarmement selon les États. La Russie était apparemment, semble-t-il, gravement en retard en termes de nouveaux types de matériel, d'où cette course à l'armement. En Europe, se déroule exactement la même chose. La France court après aussi une remodernisation complète de son arsenal, à la fois nucléaire et de ses armes conventionnelles. Toute une question de budget, finalement. Mais en tout cas, c'est quand même bien vers la tendance sur laquelle on tend. De la question est de savoir, voilà, maintenant, comme le général Desportes vient de le dire, il y a une problématique de course aux armements. À un moment donné, forcément, ces armements vont être utilisés. La question est de savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour limiter, voire stopper cette course aux armements, et comment est-ce qu'on travaille en termes de multiculturalisme avec tous les autres États pour brider donc cette course et faire en sorte de la réduire, voire et de la stopper complètement.
Alors, brider cette course, il semble que ce soit pas tant que ça à l'ordre du jour, au général des portes.
Brider, si, bien sûr que si. Je crois que personne, enfin dans les, en particulier en Europe, personne ne plaide pour le surarmement. C'est là n'est pas le point. Mais en même temps, je le disais, il y a une nécessité d'assurer sa propre défense. Et en France, il est clair, puisqu'évidemment la France est au cœur de cette affaire-là, il est clair que la France aujourd'hui n'a plus véritablement les moyens de sa défense. Avec quels moyens doit-elle l'assurer ? C'est autre chose. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord autour de la table sur ce sujet.
Mais en tout cas,
il est clair que dans le monde de menaces réelles qui existent, la France doit assurer sa défense comme l'Europe doit assurer sa défense, puisqu'aujourd'hui, je suis persuadé, si vous voulez, que l'Europe doit arriver à bâtir sa propre défense. L'Europe a vécu pendant très longtemps, disons 70 ans, sur l'idée que les États-Unis participeraient directement à l'Europe de la défense si c'était nécessaire. Moi, je suis absolument persuadé du contraire. Et de même que de Gaulle disait en 1958, il importe que la défense de la France soit française, je pense aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du monde, qu'il importe que la défense de l'Europe soit européenne.
Alors, on va parler de l'Europe. On reste quelques instants sur la France, amiral Colldeffy. Les militaires français sont engagés partout dans le monde. Comment définiriez-vous la stratégie de la France aujourd'hui ?
La stratégie, c'est celle de sa politique étrangère, hein, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des Français et de la France par une action qui est multiple, c'est-à-dire une action diplomatique, la contrainte par les traités, etc., qui sont négociés, qui visent à réguler les relations internationales, et puis l'action coercitive quand la France est directement en danger. C'est tout simple. Tous les pays sont comme ça. Il se trouve qu'en Europe, actuellement, seule la France, et puis bientôt le Royaume-Uni, quand il va retrouver la santé, si je puis dire, font la même chose, la même analyse et ont les mêmes actions. Donc, un pilier diplomatique, des négociations, on a évoqué des traités, etc., plus ou moins contraignants, et une capacité à intervenir là où le danger va se retrouver dans le métro quelques mois plus tard.
Général Desportes.
Je suis évidemment d'accord avec ce que dit l'amiral Colldeffy, mais je pense que le problème de la France, c'est que cette stratégie n'est pas consolidée. C'est vrai, ce qui se fait, c'est ça, mais aujourd'hui, ce dont la France manque profondément, c'est d'une vision sur laquelle elle puisse bâtir une stratégie. Ce manque de vision, c'est pas le gouvernement, c'est pas la mandature Hollande, c'est aussi la mandature Sarkozy, peut-être la précédente. À un moment donné, il faut clarifier les choses. Il faut que la France, et le président de la France, ait une vision claire de la France dans son rôle dans le monde. Et donc, aujourd'hui, on a bien quelque chose qui s'apparente à une stratégie, qui vient d'être décrit, mais qui est plutôt une stratégie réactive, si vous voulez. Ce qui importe en stratégie, c'est de jouer avec les blancs, comme on dit aux échecs, de savoir ce que l'on veut faire. C'est vrai pour la France et c'est vrai pour l'Europe. Et moi, j'appelle nos prochains gouvernants, qu'ils soient français ou allemands d'ailleurs, à définir parfaitement ce qu'ils veulent être dans le monde. Et ça me paraît primordial pour pouvoir assurer notre défense à partir d'un projet politique.
Amiral Colldeffy, vous partagez cette impression de stratégie réactive qu'évoquait à l'instant Général Desportes ?
Non, d'abord, qui dit stratégie dit offensif, hein, puisque le but de la stratégie, c'est d'atteindre un but de guerre, hein, quels qu'en soient les moyens. Après, c'est la tactique qui se met en œuvre. Le hiatus, il est entre cette stratégie qui est claire dans l'esprit. J'ai participé au livre blanc des 20 dernières années, en poste de responsabilité, en particulier à l'état-major des armées, et je peux dire que cette capacité à voir loin, elle existe. Ce qui manque, c'est la transcription, si je puis dire, en acte, en fait, le développement d'une industrie de défense, le développement d'alliances, le développement d'un outil qui correspond aux missions qui ont été effectuées. Prenez par exemple l'affaire Sentinelle. On est parti en 2008, puis après en 2012, sur une participation de l'armée de terre autour de 7 à 10 000 hommes pendant un mois, en cas de quoi que ce soit. Eh bien, ça fait 18 mois qu'il y a 10 000 hommes déployés sur le terrain, donc on a une augmentation du contrat, et c'est là l'hiatus du contrat initial, c'est un peu plus complexe pour les avions et les bateaux, c'est pour ça que je prends cet exemple qui parle à tout le monde, on a multiplié par 18 le contrat. Et en globalement, par rapport à l'analyse qui avait été faite en 2012, et qui reprenait celle de 2008, on a traduit dans les faits un contrat qui était bien en deçà des missions. Parce qu'il y a une chose dont il faut bien se souvenir, autant un gouvernement peut définir, et c'est un enjeu des élections, une politique sociale, une politique de santé, une politique de l'éducation nationale, autant la politique de défense, on ne choisit pas ses ennemis. Elle est forcément réactive et forcément elle est précautionneuse, je pourrais dire entre guillemets, de façon à parer les coups. On n'est pas dans un mode où il y a deux projets de société, on est mode où il y a un seul projet de défense et on ne sait pas qui va nous attaquer.
Jean-Marie Gollin.
Oui. Mais une fois de plus, Sentinelle, en fait, montre bien qu'on a été dans une politique réactive. C'est-à-dire qu'à la base, on était sur un mois de contrat opérationnel, comme vous dites. Ouais. Et finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas d'autres moyens à mettre en place sécuritaires pour protéger les citoyens français. Donc, on s'est dit, on a 10 000 militaires et on va les utiliser pendant aujourd'hui jusqu'à 18 mois. Donc ça, en fait, c'est là où on est, où il y a une politique, où il y a un manque de réflexion globale. Ce qui signifie que donc, il y avait un manque d'hommes en termes de sécurité intérieure, des policiers, des CRS, enfin la sécurité intérieure.
Je suis d'accord avec vous parce que les forces de sécurité, elles sont de l'ordre de 400 000 à peu près. Si on ajoute les forces de la police nationale, plus de 100 000, les forces de la gendarmerie, plus de 100 000, les forces des polices municipales, la sécurité civile, etc., on arrive à 400 000. Et on avait pensé à l'époque que symboliquement, un apport de quelques milliers de soldats serait suffisant pour rassurer nos concitoyens. Il se trouve que ça n'a pas été le cas. Et cet effort qui est considérable pour les armées parce qu'on les avait pas dotés pour cela, c'est un effort qui se continue. Et mais c'est pas le fait d'un manque de policiers ou d'un manque de gendarmes. Hein, c'est le fait d'une mauvaise perception de ce que nos concitoyens ressentent devant les attentats.
Je pense qu'on sera pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on est forcément à chaque fois, il me semble aussi, quand même, comme le général Desportes, sur une politique réactive. Si on prend le cas de l'Afrique, effectivement, on connaît pas nos ennemis. L'Afrique, ça fait plus de 40 ans où il y a des problématiques africaines, où on alimente la France, l'Europe, l'ONU, où on alimente constamment, en fait, les États africains en tentant de les former, de créer des troupes auprès de ces États pour qu'ils soient capables même de gérer leurs différentes problématiques. Je me rappelle, dans les années 90, je finissais juste mes études, enfin à la fin des années 90, on travaillait sur le renforcement des capacités africaines de maintien de la paix. Un grand programme qui avait une grande ambition. 20 ans plus tard, ce type de programme est toujours plus ou moins dans les limbes, mais on s'aperçoit que ça a été des échecs. C'est-à-dire que c'est là où on est dans des politiques réactives, où on court après le temps, où il n'y a pas une stratégie globale de dire on a une problématique en Afrique, on doit stabiliser les choses, on doit aider à stabiliser les choses, on doit aider les gouvernements et non pas imposer notre propre vue, pour faire en sorte que dans 30 ans, 40 ans, cette problématique-là diminue complètement. Ah, jamais à 100%, bien évidemment. Mais on reste toujours sur des points de pression constants. Et puis, il y en a d'autres où on sait qu'il va y en avoir dans 10 ou 20 ans. On en a un petit peu parlé dans le livre blanc, dans le dernier livre blanc. Par exemple, c'est l'Arctique. On sait que ça va être un point de pression pour différentes raisons. Et aujourd'hui, on n'investit pas, je veux dire, tant dans la recherche, dans la science, dans les moyens humains, pas seulement militaires, mais dans un ensemble de moyens pour se dire, cette zone-là, on doit y réfléchir. Notre vaste zone économique ZEE, c'est pareil. On sait qu'on a un ensemble de territoires à protéger, pas seulement contre un potentiel agresseur, mais aussi contre des gens qui vont venir voler des poissons ou détruire des massifs coralliens pour notre environnement. On n'investit pas et on n'en réfléchit pas. Et on le fera certainement à un moment donné en urgence. Je crois qu'il y a un député qui a lancé une pétition il y a quelques semaines sur l'îlot de Tromelin pour pas que celui-ci soit rétrocédé à un autre État. Ça a été fait en urgence. Donc on voit bien qu'on court à chaque fois dans l'urgence parce que je pense qu'il y a une absence réelle de coordination entre les militaires qui réfléchissent et qui ont la science pour ça, et une partie des hommes politiques qui, eux, effectivement, courent après plus le temps ou leur mandat, plutôt qu'après une véritable vision politique au sens « je réfléchis à 30 ans ».
Cette opposition entre court et long terme, général Desportes.
Vous venez d'énoncer le problème fondamental, c'est-à-dire que les problèmes de géopolitique, de politique étrangère, c'est des problèmes de long terme, mais qui sont traités pratiquement toujours à l'aune des intérêts politiciens de court terme. C'était exactement la difficulté. Et c'est pour ça que les militaires, Amiral Koldefi, moi-même et tous les autres, nous avons un rôle à jouer parce que, quelque part, nous sommes formés pour penser le long terme. Amiral Koldefi vous dira facilement que pour construire une marine, il faut 30 ans. Donc on peut pas penser ça dans le court terme. Et c'est pour ça que on a besoin en France de gens qui pensent long terme, des gens comme vous, comme nous tous, comme les gens des think tanks, etc., qui arrivent à faire valoir le long terme, à le faire prévaloir par rapport au court terme. Parce que les problèmes fondamentaux sont les problèmes de long terme et pas des problèmes de court terme. Et c'est pour ça que l'approche de Trump aujourd'hui est dangereuse, c'est que les grands problèmes du monde sont des problèmes multilatéraux. Multilatéraux, des problèmes globaux, vous venez d'en citer un, le problème du Grand Nord. Et donc, dans cette affaire-là, les approches bilatérales qui semblent devoir être majoritaires dans le court terme, puisque Trump semble les imposer, sont des approches qui sont dangereuses parce que nous devons être tous ensemble dans une vision de long terme pour régler les problèmes du monde.
Amiral Koldjefi.
Oui, on n'a pas de temps, mais surtout les exemples qui ont été cités, Recamp, Tromelin et l'Arctique, en réalité, je suis d'un avis totalement contraire. Recamp, c'est une initiative qui avait à la fois la vocation à répandre, j'allais dire, une ère de paix en Afrique. On a fait ça en parallèle des Américains qui créaient leur commandement pour l'Afrique à l'époque. Et ce renforcement visait avec des conférences internationales, des dépôts d'équipements, de la formation, à doter les pays africains des moyens de combattre leurs adversaires, tout en les éduquant, entre guillemets, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais en leur donnant la matière pour qu'il y ait des structures administratives, etc., dans tous les autres domaines. Donc c'est l'exemple d'une vision stratégique qui a échoué parce que peut-être qu'on a voulu coller notre modèle, et c'est un des échecs des démocraties occidentales, qu'on a voulu trop vite coller notre modèle sur des pays qui n'en sont pas là dans leur développement démocratique. Sur Tromelin, c'est une affaire qui dure depuis des années. En tant que président de l'Académie de Marine, j'ai fourni un avis au gouvernement. C'est une affaire qui dure depuis des années, car il y a deux choses, c'est un petit peu compliqué. C'est un accord qui va nous permettre de reconnaître notre présence sur une île et non pas un îlot, et qui, face à des revendications dans l'océan Indien, où nous sommes nation riveraine grâce à l'Inde, de continuer à être présents sans être contestés. Or, il y a des ressources importantes, vous citez les zones économiques, dans ces zones-là, donc il était important de déterminer une position. Alors bien sûr, il y a eu la surface des choses, etc., et le refus de signer cet accord qui était un accord intergouvernemental avec Maurice. Et sur l'Arctique, bien évidemment, là c'est un manque de moyens, parce que l'Arctique est un océan, l'Antarctique est un continent, l'Arctique est un océan, qui n'a pas de zone économique, qui a des richesses considérables, à la fois halieutiques et minérales, où les Russes ont déjà mis en place un amiral et des forces en Arctique, et où les Américains sont très présents. Ils ont d'ailleurs en lutte un petit peu avec les Canadiens, c'est un petit peu compliqué tout ça, et nous nous sommes retirés, faute d'argent, en réalité.
Alors, je voulais qu'on aborde la question du nucléaire avec l'augmentation des sommes consacrées à la dissuasion nucléaire. Pour la France, je vous propose qu'on reporte cela dans la deuxième partie de l'émission. On poursuit sur l'Europe, la France, l'Europe. Vous évoquiez le président américain, général Desportes, les incertitudes sur l'avenir de l'OTAN. Est-ce qu'elles peuvent pousser les Européens à coopérer en dépit de leur division sur l'opportunité d'une armée européenne, terme encore tabou, mais disons une union de la défense, et qu'est-ce que cela veut dire pour l'Alliance ?
Alors je crois que le terme ne doit pas être tabou. Vous savez, le général de Gaulle avait compris dès 1958 que les États avaient d'abord des intérêts, et que c'est clair. Et que si la France devait assurer sa défense, eh ben elle devait bâtir sa défense. Et je crois que c'est de plus en plus vrai. De Gaulle avait compris en 58 que l'Amérique ne reviendrait pas, n'enverrait plus ses soldats sur les plages de Normandie. Moi, je suis absolument persuadé que plus jamais l'Amérique, pour un certain nombre de raisons, dont je me suis ouvert de ces sujets dans beaucoup d'écrits, ne reviendra pas à nous défendre. Et que donc, aujourd'hui, il est temps que l'Europe trouve son autonomie stratégique, c'est qu'elle n'a pas su bâtir en 70 ans. Et le monde étant ce qu'il est, l'autonomie stratégique passe par l'autonomie de défense. Donc il est important que l'Europe ne rejette pas ce mot de défense de l'Europe, mais dise oui, il faut construire la défense de l'Europe. Et donc, je crois qu'il faut tirer parti de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons des événements qui sont inquiétants. L'élection de Trump est inquiétante. Le Brexit est inquiétant. Mais alors, il faut les prendre comme un militaire essaie de les prendre, c'est-à-dire en faire une opportunité. Oui, c'est inquiétant. Eh bien, faisons-en une opportunité pour bâtir cette défense de l'Europe dont nous avons besoin et que personne n'assurera plus si nous ne nous prenons pas en main.
Amiral Koldjefi, 30 secondes pour répondre au général Desportes et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission.
Les Européens n'ont pas assez peur pour faire une armée européenne, et les États-Unis profitent de l'OTAN pour conserver une mainmise politique sur l'Europe, et c'est leur intérêt.
Jean-Marie Collin.
Oui, je suis un peu les deux raisonnements. Aujourd'hui, on est dans un véritable no man's land, c'est-à-dire une inconnue face aux futures décisions de Trump, face à la réalité de l'OTAN et face à la volonté des Européens de travailler ensemble pour éventuellement former une armée européenne ou une unité, ou je sais pas quel nom on devra lui donner, puisque apparemment le terme armée européenne est souvent mal perçu, quoi.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, l'amiral Alain Coldefy, le général Vincent Desportes et Jean-Marie Collin dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le monde s'achemine-t-il vers une nouvelle course aux armements? Nous retrouvons nos invités, l'amiral Alain Coldefy, directeur de la revue Défense Nationale, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associées à Sciences Po, auteur de La dernière bataille de la France chez Gallimard, et Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, vice-président d'Initiative pour le désarmement nucléaire. Nous avons quitter la première partie de l'émission en évoquant les incertitudes sur l'avenir de l'OTAN. Est-ce qu'elles peuvent, ces incertitudes, pousser les Européens à coopérer en dépit de leur division sur l'opportunité d'une armée européenne? Le Brexit, il est évident qu'il peut, ce Brexit, affecter le rôle britannique dans l'OTAN, et quelles conséquences pour la France et pour l'Europe? Général Desportes.
Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le Brexit, il faut prendre comme une chance. Alors, je n'étais pas pour le Brexit est là, c'est comme ça. Et ce que nous devons en retenir, c'est que le pays qui s'est opposé le plus à la construction de la défense de l'Europe ou à la défense de l'Europe, c'est la Grande-Bretagne, qui s'est, par exemple, opposé en permanence à la création d'un état-major capable de conduire des opérations au nom de l'Europe. Et donc, ce frein, ce bâton dans les roues pour la construction de la défense qui était la Grande-Bretagne est parti. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle opportunité. Et donc le Brexit, ça n'est pas un affaiblissement de la défense de l'Europe, parce que les accords bilatéraux qui existent, par exemple, entre la France et la Grande-Bretagne existent toujours et ne sont pas caducs. Mais pour l'Europe de la défense, c'est une chance qu'il faut saisir aujourd'hui avec l'Allemagne.
Une chance, amiral Coldefy?
Moi, je dirais que, de même que lorsque le général de Gaulle a retiré en 1963 les forces navales de l'OTAN et en 1966 l'ensemble des militaires de la structure intégrée par sa fameuse lettre au président Johnson, qui faisait suite au refus de Kennedy de faire un triumvirat sur le nucléaire, quand même, ne l'oublions pas, nous avons passé jusqu'en 2009 une longue période en dehors de ces structures militaires intégrées, sans que cela ne modifie en quoi que ce soit la capacité militaire globale de l'OTAN et notre capacité d'action. Donc on va se retrouver à l'inverse avec le Brexit. Contrairement à ce qui a été dit, les Anglais ne quittent pas l'OTAN. Ça reste la puissance numéro 2 de l'OTAN par leur influence, bien sûr. Mais vis-à-vis de l'Europe, en fait, on ne perd strictement rien. Ce qui est difficile pour la défense française, c'est que le seul partenaire à égalité, moi je commandais les forces franco-britanniques au Kosovo, d'autres ont d'autres expériences avec nos camarades et amis britanniques, c'est le seul outil militaire qui soit préparé, comme le nôtre, pour l'intervention extérieure, la projection, et qui est des composantes équilibrées entre, en gros, les forces terrestres, aériennes et maritimes. Donc c'est notre partenaire normal, habituel, et avec lequel nous avons des relations quotidiennes et nous savons aller au combat sans aucune difficulté. L'ensemble de nos autres partenaires en organisation est beaucoup moins structuré. Vous avez cité l'Allemagne tout à l'heure dans votre introduction. Elle a un budget qui en valeur est supérieur au nôtre, mais son PIB étant nettement supérieur au nôtre, avec un pourcentage du PIB inférieur, elle fait un effort. Mais elle a ce que dans toute entreprise, j'allais dire, on regarderait d'un mauvais œil, elle a dépenses de fonctionnement qui sont largement supérieures aux dépenses d'investissement. Donc elle ne prépare pas l'avenir, elle gère simplement un capital qui est en train d'essayer de gérer au mieux. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, ne l'oublions pas, et c'est la réalité, a perdu la guerre. Et l'alliance a été créée pour noyer l'armée allemande et les soldats allemands dans l'alliance. Et je pose souvent cette question, permettez-moi 30 secondes, à des politiques, aucun n'a jamais la réponse. À des journalistes, aucun n'a jamais la réponse. Quel est le grade aujourd'hui du chef d'état-major de l'armée de terre allemande, qui est l'équivalent de la nôtre? Alors je ne demande pas de connaître tous les grades, mais il a une étoile de moins que tous ses partenaires de l'OTAN. De même pour le patron de la Deutsche Marine et le patron de la Luftwaffe. Pourquoi? Ils ont perdu la guerre, ils doivent porter sur leurs épaules, y compris dans les grandes réunions à l'OTAN, cette marque infamante d'avoir une étoile de moins qui, on peut s'en moquer, mais qui est quand même le signe et qui surveille les Américains et les Anglais.
Passer, donc on est bien dans un
quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que Yaka, Faucon, et on a ça à faire.
Alors on poursuit avec l'Europe, si vous le voulez bien, et la Russie. Comment voyez-vous notre relation avec la Russie, Général Desportes ?
Je crois qu'il faut être réaliste. La vision que beaucoup de Français ont de la Russie est une vision qui est imposée par le soft power américain. Et je pense aujourd'hui que les intérêts américains et les intérêts européens ne sont pas totalement divergents, ils ne sont pas orthogonaux, mais ils ne sont pas convergents. Et en particulier, qui a créé la Russie de Poutine, la Russie agressive ? Je pense que c'est fondamentalement les États-Unis de George W. Bush. Par un certain nombre de choses, l'élargissement inconsidéré de l'OTAN vers l'Est, la création du bouclier antimissile évidemment, le contournement de la Russie lancé par Bush dans les républiques d'Asie centrale, etc. Et la Russie, qui est un grand pays, quelque part s'est réveillée, et se réveille à donner M. Poutine, et cette volonté de rétablir la fierté russe. Bon. Voilà, c'est ça la Russie d'aujourd'hui. Et je pense que la Russie n'est pas fondamentalement agressive, mais qu'elle est un pays comme les autres, qui, quand elle se sent attaquée, se défend, et a une culture. Sa culture, par exemple, c'est de ne pas tolérer d'avoir un adversaire dans son étranger très proche. Et donc, elle réagit. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut raison garder et faire baisser les tensions. Aujourd'hui, les tensions croissantes, par exemple, dans les pays baltes, les tensions croissantes dans l'Est de l'Europe, sont profondément le reflet d'intérêt ou d'une vision américaine. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre deux choses. C'est que, un, la dérive des continents, ça existe. Et que, quoi qu'il arrive, l'Amérique est en train de se déplacer vers son ouest. Et un jour, eh bien, le lien transatlantique restera, mais il ne sera pas suffisamment fort. Et par contre, ce qui restera en permanence, c'est la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Donc nous devons trouver un modus vivendi, une capacité à vivre ensemble dans ce grand continent qui est l'Eurasie. Donc aujourd'hui, il faut arriver à faire baisser ces tensions et à vivre avec la Russie.
Donc une relation à travailler, amiral Koldefi.
Alors, moi je suis à 200% d'accord avec l'analyse du général Desportes. La politique étrangère américaine a été inconséquente, et en particulier un bouclier antimissile qui n'a vocation qu'à défendre le territoire américain, d'ailleurs, même s'il y a des bases de lancement de missiles en Europe de l'Est, n'a fait que provoquer inutilement la Russie. Alors il faut savoir, sans repartir très très loin, que les Américains ont besoin d'adversaires, ont besoin du bien, du mal, etc. Et donc, dans cette affaire, que font les Européens ? À cause du nucléaire, les Anglais sont comme des chiens en laisse par rapport à la politique étrangère américaine. Il faut être clair là-dessus.
À cause du nucléaire ?
Bien sûr, leur nucléaire est américain. Donc leur politique étrangère est complètement inféodée à celle des Américains. C'est leur choix. Les Allemands n'ont pas de politique étrangère et les Américains veillent à ce qu'il n'y ait pas de politique étrangère. Et les nouveaux pays qui ont été inconsidérément entrés dans l'OTAN par la seule volonté américaine, car c'est une décision politique, je rappelle toujours, sont bien sûr tendus devant l'agressivité en parole de Poutine. Quelques actes ici de là de provocation qu'on a connus du temps de la guerre froide. On a poussé des cris d'orfraie parce qu'il y avait des sous-marins russes au large de Brest. Il y en a eu pendant 50 ans, pendant la guerre froide. Et on était tous les jours en train de les pourchasser. Donc on est bien face à une politique étrangère américaine inutilement agressive et nous sommes les seuls en Europe, grâce justement à cette capacité que nous donnent nos forces nucléaires d'être un interlocuteur qui est écouté, ça je peux en témoigner, on a le devoir d'avoir une politique réaliste face à la Russie qui reprend ses frontières. Je crois que là c'est une opportunité pour la France que dirait partie, je dirais, de cette erreur stratégique, disons-le américaine, car c'est effectivement Bush, Clinton, et maintenant Trump, mais on ne sait pas trop, mais je pense qu'il va continuer sur cette tendance.
Jean-Marie Collin.
Je dirais même que c'est une opportunité pour l'Union européenne, en fait, de vouloir retravailler ensemble et de faire en sorte que nos relations avec la Russie deviennent de plus en plus paisibles et pacifiques le plus possible. On a tous évoqué, donc, enfin, vous avez tous les deux évoqué la problématique du bouclier antimissile ou l'élargissement de l'OTAN, je dirais encore plus loin, quand on peut lire dans certains titres que la Pologne est demandeuse d'armes nucléaires américaines, voire éventuellement d'un groupement aérien français, des forces aériennes stratégiques. On voit bien qu'on va vers du surarmement, pour en revenir au tout début de l'émission. Et on voit bien donc la problématique du nucléaire militaire pose problème, puisque ce bouclier ABM a été conçu au départ pour éventuellement détruire tout missile nucléaire en provenance de l'Iran, voire de la Corée du Nord. Donc, si on travaillait véritablement sur cette problématique de désarmement nucléaire, sur cette volonté de au sein de l'Union européenne de dire on doit avoir une politique des affaires étrangères forte et faire en sorte que ce bouclier ABM américain sur le territoire européen soit arrêté. On doit discuter ouvertement avec la Russie sur leurs armes nucléaires tactiques et sur les armes nucléaires tactiques américaines qui sont entreposées en Europe aussi. On a une capacité d'influence. On irait aussi vers des relations beaucoup plus pacifiques et on irait vers une politique étrangère beaucoup plus forte et beaucoup plus soudée entre nous aussi. C'est ça aussi l'idée derrière, c'est d'être véritablement soudée et pas d'avoir différents appareils ou pensées politiques.
L'arme nucléaire, elle n'a pas empêché le 11 septembre, pas plus qu'elle n'a aidé en quoi que ce soit Washington dans les conflits en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye ou dans la guerre contre les groupes terroristes, Al-Qaïda à Daesh. On voit, en ce qui concerne la France, une prévision d'augmentation des sommes consacrées à la dissuasion nucléaire. Quel est le signal que nous voulons envoyer? Et quelle lecture faites-vous du processus international de désarmement nucléaire qui est en cours avec des réunions en avril prochain pour négocier un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète, général Desportes?
Moi, je crois qu'il faut être raisonnable. C'est vrai que la bombe atomique ou l'arme, la dissuasion n'a pas interdit les attentats, mais les chars de combat non plus, et les avions non plus, et les bateaux non plus. Donc, je crois, et ça c'est un principe, c'est que chaque équipement militaire est pensé pour faire face à une menace. Donc, l'adversaire, si on peut dire, de la dissuasion nucléaire, c'est bien la puissance étatique, fondamentalement, et elle fait face à cette menace-là. Ce qu'on peut dire... Certains peuvent en discuter, mais la dissuasion nucléaire a quand même probablement empêché l'affrontement étatique de haut niveau pendant 70 ans. Donc on peut pas jeter comme ça le bébé avec l'eau du bain. Par contre, ce que vous avez dit est parfaitement vrai, c'est que, il y a deux choses, c'est que d'autre part, il faut être capable de faire autre chose, parce que la violence et la menace ne se situent pas que dans le haut du spectre. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, on sait aussi que l'homme dispose sur cette planète, très largement, de quoi la détruire en un quart d'heure. Et que donc, on est obligé, aujourd'hui, je pense, de continuer de préserver la réassurance nucléaire, mais en même temps, et c'est là où la démarche d'Obama était raisonnable, ou du moins au début, c'est de se dire, on ne peut pas laisser cette tendance croître, et il serait dangereux de ne pas essayer de la limiter. Donc le problème là, l'existence n'est pas contestable, à mon sens. Le problème, c'est le problème de la suffisance. Et quand en France, on parle d'armes nucléaires, le problème, c'est de la suffisance. Chez nous, faut-il une ou deux composantes? Faut-il moderniser? Ces questions se posent, ce sont des questions ouvertes, auxquelles il faut répondre.
Quand vous parlez composantes, juste pour nos auditeurs...
Il y a deux composantes aujourd'hui. La composante navale, qui est les missiles antibalistiques intercontinentaux qui sont tirés par les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins nous disposons. Et puis, nos missiles ASMPA qui sont tirés par des avions Rafale qui appartiennent à l'armée de l'air. Voilà, donc on a deux composantes. Avant, on en a eu trois. On en a deux. Sont-elles nécessaires? C'est une vraie question. Faut-il les moderniser, ce qui va entraîner un coût absolument considérable, vous l'avez dit.
Au détriment du conventionnel?
Alors, justement, c'est une des questions. Pas forcément au détriment du conventionnel, mais l'effort budgétaire pour arriver à les faire les deux à la fois va être considérable. Donc ça, c'est des vraies questions auxquelles le prochain président devra répondre.
Amiral Koldufi.
Alors, pour répondre à votre première question, l'armement nucléaire n'a pas été là pour... surveiller le pillage de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques ou protéger le pétrole dont 100% des quantités arrivent par voie de mer tous les jours en France. C'est clair. Comme l'a très bien dit le général Desportes, c'est la menace majeure, une menace étatique qui a fonctionné sur le thème de « plus jamais juin 40 ». En gros, c'est ce qui reste dans le cortex de tous les dirigeants politiques, même ceux qui sont nés après la guerre. C'est le point important. Le deuxième point, c'est, vous avez parlé de traités. Il faut savoir que tous les traités contraignants, traités de non-prolifération, traités d'interdiction complète, traités sur les armes de petit calibre, traités sur les mines, etc., sont des traités qui sont parfois signés, mais jamais ratifiés par quelques pays, dont les États-Unis, Israël, le Pakistan, la Corée du Nord.
On retrouve toujours les mêmes.
On retrouve toujours les mêmes, dont les Américains, qui ne veulent pas signer, ratifier en tout cas.
Donc, du temps perdu?
Non, il faut continuer. Mais c'est sans espoir, mais il faut continuer. On rame à contre-courant, mais il faut continuer. Le troisième point, pour faire court, c'est, on a parlé des coûts du nucléaire. la France a son statut qui lui permet de préserver une certaine autonomie. On est très lié à l'importation d'énergie extérieure, parce qu'on n'a pas voulu développer d'autres énergies. On est très lié à un commerce qui se passe à l'extérieur, on a des intérêts partout. Et donc, la France a besoin d'être quelqu'un que l'on écoute, qui a une puissance militaire modeste mais réelle, et qui surtout, en étant membre permanent du Conseil de sécurité, à cause et uniquement à cause du fait de sa puissance nucléaire, continue à parler dans le monde. Et c'est un peu pour ça qu'on énerve. Alors, sur la modernisation, oui, mais il ne faut pas, je veux dire, être effrayé par les coûts. Le budget de la défense, c'est 30 milliards. Il y a 10 milliards d'achats directs par an. Le PIB de la France est 2200 milliards. La dette de la France est 2200 milliards. La dépense publique, c'est 1200 milliards. Donc, je crois que là, on est dans des chiffres qui sont très, très raisonnables.
Jean-Marie Collin, après ça, je vous
alors,
passe la parole.
Alors, j'aurais plein de choses à dire, notamment sur le fait qu'on n'est évidemment pas au Conseil de sécurité de l'ONU parce que nous avons la bombe nucléaire, puisque nous l'avons eue après 1945. Plein de choses à dire sur la question des coûts. Si c'était pas une véritable interrogation, ben aujourd'hui, on n'en parlerait pas et les parlementaires s'interrogeraient pas et à ce moment-là, on augmenterait le budget de la défense sans compter. Sur le fait que l'arme nucléaire, c'est pas une arme comme les autres, évidemment, c'est totalement différent. C'est bien ce qu'on appelle une arme de destruction massive, d'où cette qualité supérieure aux autres. Et en fait, aujourd'hui, oui, les traités sont importants. Effectivement, les États-Unis n'ont pas ratifié un certain nombre de traités. Mais si on prend le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, ils ne l'ont pas ratifié, ils l'ont signé. Mais aujourd'hui, c'est une norme internationale qui est reconnue et qui fait pression autant sur les États-Unis que sur la Chine de ne pas pouvoir réaliser de nouveaux essais nucléaires. Si demain Trump décidait de faire un nouvel essai nucléaire, on est certain que ça provoquerait un tollé international qui serait extrêmement puissant et qui aurait totalement à l'encontre des États-Unis. Seule la Corée du Nord, en fait, aujourd'hui est résistante par rapport à ce traité. Aujourd'hui, on est dans un calendrier très précis. Et c'est là-dessus où je m'interroge véritablement par rapport à la pensée, là aussi, une pensée stratégique à long terme sur la France, c'est-à-dire que on a des négociations, on a 130 États qui vont débuter un travail de négociation. Dans ces 130 États, certains sont majoritairement pour et quelques-uns sont contre et d'autres s'interrogent sur comment interdire les armes nucléaires. Je dis bien interdire les armes nucléaires. On ne parle pas aujourd'hui de désarmement nucléaire. L'interdiction, c'est la première étape, suivra derrière le désarmement, même si en parallèle, vous avez tout un tas de traités qui obligent les États à désarmer. Et aujourd'hui, la diplomatie française, tout simplement, c'est de ne pas y aller, de ne pas discuter. Et en ça, elle n'est pas grande. Et en ça, elle ne respecte pas ses obligations de bonne foi, de ne pas vouloir discuter avec des gens. La diplomatie, à la base, c'est de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, pour savoir comment on résout ce problème. Parce que si les armes nucléaires n'étaient pas un problème, on n'en discuterait pas, il n'y aurait pas de traité. Tout le monde en aurait ou personne n'en aurait. Et c'est là-dessus, véritablement, qu'il faut travailler. Si les Chinois et la Russie nous posent un problème avec leurs armes nucléaires, aujourd'hui, on a une solution, un début de solution, c'est l'interdiction des armes nucléaires, sur laquelle on peut faire pression auprès des Russies et de la Chine. C'est ça l'ambition de ce traité, c'est ça la volonté. Donc si on ne travaille pas, c'est sûr qu'on aura toujours des armes nucléaires et on aura toujours une problématique internationale.
Général Desportes ?
Alors, non, deux points simplement, je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas au Conseil de sécurité parce que nous avons l'arme nucléaire. C'est un des éléments. Mais effectivement, nous étions en janvier 46, nous étions déjà membres. L'arme nucléaire, on a eu 12 ans après ou 13 ans après. Ça, c'est le premier point. Nous sommes fondamentalement là-bas, parce que la France est capable d'intervenir dans les crises et à dire quelque chose au monde. Quand Monsieur Hollande, président de la France, est reçu sur le tapis rouge par Monsieur Obama, c'est pas à cause de nos sous-marins, c'est parce que la France est intervenue au Sahel de manière absolument remarquable, avec sa marine, avec son aviation, avec son armée de terre. Et là, j'en arrive à mon deuxième point, c'est l'affaire des coûts. Il y a un problème de coûts. Je cite le chef d'état-major des armées, le 31 janvier dernier, qui parlait du risque d'éviction. D'éviction, c'est-à-dire que si la France n'arrive pas à se doter, c'est un choix politique, du budget lui permettant de conduire en même temps la modernisation de ses forces nucléaires et d'autre part la consolidation de ses forces conventionnelles qui sont aujourd'hui très fortement dégradées, il y a un risque d'éviction. Donc le problème du coût est un vrai problème, mais qui ne peut être réglé que par des choix politiques.
Amiral Koldufi, en guise de conclusion, très rapidement.
Je crois que c'est pas un décret signé devant les caméras qui interdira la Chine et la Russie d'avoir des armes nucléaires. Soyons réalistes, ne soyons pas idéalistes. La problématique a été exactement décrite par le général Desportes. Nous sommes face à un nouveau challenge qui vise à la fois en termes budgétaires et en termes capacitaires de continuer à avoir une dissuasion raisonnable mais efficace, donc à la moderniser et avoir des capacités disons, classiques ou conventionnels dans les différents domaines, y compris la guerre cybernétique, capables de répondre aux différents enjeux. C'est tout, le débat, il est là. Et c'est un débat, je suis désolé de le rappeler, de quelques milliards dans un pays qui dépense 1200 milliards de dépenses publiques.
Merci, c'est la fin donc de Géopolitique. Merci à l'amiral Coldefy, directeur de la revue Défense Nationale, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur des universités associées à Sciences Po et auteur de La dernière bataille de France aux éditions Gallimard, et Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, vice-président d'Initiative pour le désarmement nucléaire. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Mathias Taylor. À samedi prochain.